Dans les régions méditerranéennes, le départ en procession de nymphoses, des chenilles de Tometopea pithiocampa, se fait au printemps. En file unique, tous les individus appartenant à une même colonie abandonnent l'arbre nourricier. Soumis à une géocinèse positive, le chef de file, généralement une chenille femelle, dirige la procession vers le sol. Un mécanisme d'intercommunication tactile maintient l'intégrité de la colonie. Une interaction complexe de la lumière et de la température conduit le chef de file dans les zones les plus chaudes du biotope où a lieu l'enfouissement. À quelques centimètres sous terre, les chenilles se nymphoseront après tissage d'un cocon, puis les chrysalides subiront un arrêt de développement qui dure généralement quelques mois, mais peut se prolonger pendant une ou plusieurs années. La fin de la période de diapause varie selon les régions, mais elle est toujours estivale. En juillet, dans le sud de la France, les papillons émergent entre 17 et 23 heures, suivant un régime horaire rigoureux. Voici une femelle, trapue, caractérisée par son abdomen cylindrique. Le mâle, plus frêle, antenne déployée, grimpe toujours sur un support élevé, puis s'immobilise. Cette réaction d'arrêt, pour le mâle comme pour la femelle, est le prélude nécessaire au déploiement des ailes, qui s'effectuera en 20 minutes. La prise de vue, image par image, en facilite l'observation. Lorsqu'elles ont atteint leur taille maximale, les ailes déployées se redressent à la verticale, puis se rabaissent jusqu'au séchage complet. L'adulte est prêt pour l'envol. Vers minuit, grâce à ses antennes réceptrices, le mâle a retrouvé la femelle et s'est accouplé. Les deux partenaires resteront unis pendant 30 à 45 minutes. À la fin de l'accouplement, après un bref échauffement musculaire, le mâle s'envole. Il mourra quelques heures plus tard. Plus lente, la femelle s'envole à son tour à la recherche du support idéal de ponte. Vers 3 heures du matin, nous la retrouvons sur un pin qu'elle a choisi d'abord en fonction de sa silhouette, puis de la structure des aiguilles. Elle enserre avec ses tarses deux aiguilles rassemblées et dépose ses œufs en un lent mouvement tournant. Chaque œuf est recouvert immédiatement par les écailles que la pondeuse possède à l'extrémité de son abdomen. En 3 heures, plus de 200 œufs seront pondus. Au lever du jour, on découvre les pontes à l'extrémité des rameaux. Elles sont assez facilement repérables, malgré leur homochromie avec les bourgeons. Les écailles enlevées, les œufs apparaissent en rangées parallèles. Après 35 à 45 jours d'incubation, au mois d'août et septembre en général, a lieu l'éclosion des jeunes chenilles qui, après avoir percé une ouverture dans le corion, se glissent au travers des écailles protectrices. Elle mesure 3 mm. Immédiatement, elles se mettent à tisser sur la ponte un réseau de soie très dense qui constituera le territoire nécessaire à leur première manifestation grégaire. Groupée à la base des rameaux pendant la journée, la jeune colonie commence à se nourrir vers le soir. Au cours des 3 premiers stades larvaires, elle change de place fréquemment. En automne, on retrouve la trace de son passage sur les arbres. Ponte et dégâts des 2 premiers stades. Dégâts du 3e stade. Début de construction du nid d'hiver. Ce n'est qu'un réseau de soie très léger qui enveloppe pendant la journée la colonie tout entière. Le début des premiers froids a donné le signal de sa construction. Son emplacement est définitif. En hiver, les chenilles sont parvenues au 4e stade larvaire. Leurs activités de tissage et d'alimentation sont généralement nocturnes. Le nid, bien architecturé, tient lieu de radiateurs solaires et permet à la colonie de compenser, par son regroupement, les variations thermiques trop brutales. Les dégâts s'accentuent et prennent leur maximum d'ampleur dès les premiers beaux jours, période de la dernière mue larvaire. Parfois, l'intensité des dégâts est telle que les chenilles du 5e stade, affamées, dévorent les ultimes aiguilles même pendant la journée. Ensuite, contraintes de déserter leur nid, elles se rassemblent en longs manchons itinérants à la recherche de nourriture. Certaines années, à la fin de l'évolution larvaire de Thaumatopea, la forêt est totalement dévastée. Ces cas exceptionnels, dus bien souvent à un déséquilibre biologique ou climatique, sont heureusement très rares, car à chacune des étapes de sa vie, la processionnaire est soumise à l'action d'un grand nombre d'ennemis naturels. Nous examinerons rapidement les principales espèces qui, au cours du cycle annuel, contribue à réduire la population de ce ravageur. Tout d'abord, prélevons une ponte peu de temps après l'éclosion et enlevons les écailles protectrices. Nous constatons que plusieurs œufs sont percés d'un trou plus petit que celui laissé par l'éclosion des chenilles. Ils ont donné naissance à des chalcidiens parasites oophages. Plusieurs espèces se partagent les œufs de la processionnaire, mais deux d'entre elles sont particulièrement actives. Oancirtus pithiocampé, que nous voyons ici sur une aiguille de pin, mesure moins d'un millimètre. Comme pour la plupart des insectes, le comportement de toilettage tient une grande place dans son activité. Il pond perpendiculairement à la surface du manchon, de préférence dans les œufs découverts. Mais tout défaut d'imbrication des écailles maternelles au moment de la ponte peut faciliter son action. Tetrasticus cervadei, légèrement plus grand, il mesure 1 mm, se rencontre fréquemment en cours de prospection sur les pontes. Contrairement à Oancirtus, il est spécifique de la processionnaire du pin. Il pond obliquement en s'insérant sous les écailles protectrices. Et c'est ainsi qu'il peut atteindre tous les œufs de la ponte. Pour Tetrasticus, comme pour Oancirtus, toute l'évolution d'un individu se poursuit aux dépens d'un seul œuf. La ponte terminée, la femelle se retire et replie lentement sa longue tarière. Dans certaines régions, les pontes, parasitées ou non, sont la proie d'un ennemi particulièrement vorace, les phipigères. Chaque ponte, rencontrée par cet orthoptère tétigonidé, est déchiquetée par ses mandibules puissantes. Les œufs sont engloutis avec avidité. Phytophage en règle générale, parfois dévastateur des cultures, et phipigère peut ainsi, en compensation, rendre service aux forestiers. Diminuées considérablement en effectif, les chenilles écloses ne sont pas sauvées pour autant. Xanthandrus contus, élégant diptère syrphidé, floricole à l'état adulte, a pour particularité de se nourrir durant sa vie larvaire aux dépens de plusieurs espèces de lépidoptères, parmi lesquelles Tometopea. Au début d'octobre, on retrouve les larves de ce prédateur à proximité des jeunes chenilles, qui sont alors au troisième stade larvaire. La larve évolue rapidement, attaque chaque proie rencontrée et la vide de son contenu. Protégées par leur nid soyeux, les chenilles paraissent moins vulnérables. Cependant, nous pouvons observer l'étrange comportement de différents diptères tachinaires, dont le plus important est Phryxae caudata, parasite spécifique de la processionnaire. Allongeant considérablement son abdomen, elle le fait pénétrer à l'intérieur du nid. Nous avons facilité l'observation de son comportement de ponte en présentant à la femelle des chenilles extraites d'un nid. Elle dépose au hasard sur le tégument ses œufs prêts à éclore. Nous les voyons ici à hauteur des fausses pattes. La larve quitte rapidement le corion membraneux, pénètre dans la cavité générale, et l'asticot à maturité sortira à la fin du quatrième stade larvaire de l'hôte. À la fin de l'hiver, période de la mue du cinquième stade larvaire, les pupes sont visibles au milieu des excréments et des dépouilles. Mais toutes les pupes ne survivront pas. Outre les hyperparasites, les oiseaux, bien souvent, effectuent des prélèvements, laissant dans la soie la trace de leur coup de bec. Compsilura concinnata, que vous voyez en cours d'accouplement, est une autre mouche tachinaire qui ressemble beaucoup à Phryxae, mais s'en différencie par sa biologie. En septembre, elle injectera ses œufs directement dans les jeunes chenilles avec son oviscapte en forme de sabre recourbé. Nous le voyons ici à gauche, comparé à l'ovipositeur membraneux de Phryxae, beaucoup plus long à droite. La larve de Compsilura évolue à l'intérieur de l'intestin moyen, contrairement à celle de Phryxae, qui évolue dans la cavité générale. Nous voyons ici ces crochets buccaux très pointus, entourés d'une rangée de spicules. Les asticots parviennent à maturité à la période de prénymphose des chenilles et la pupe se retrouve immédiatement après le tissage du cocon. La chenille a été tuée juste avant la formation de la chrysalide. Dans certaines régions d'Espagne, un parasite polyphage joue parfois un rôle important. C'est Meteorus versicolor, qui appartient à la famille des braconidés. Il attaque les chenilles au mois de septembre. Au printemps, la larve, parvenue à maturité, construit un cocon de façon très caractéristique. Ces cocons ovoïdes, suspendus à la base des nids, révèlent la présence de Meteorus versicolor. 12 jours plus tard, le cocon est désoperculé. L'adulte est parti à la recherche d'un hôte estival. Un autre hyménoptère braconidé, du genre Apanteles, a une biologie assez voisine de celle de Meteorus versicolor. Il a été découvert en Tunisie en 1967 grâce à la présence de ses cocons soyeux sur les colonies du troisième stade larvaire. Le nid ne suffit pas à protéger les chenilles qui, saines ou déjà parasitées, peuvent devenir la proie de prédateurs occasionnels. C'est ainsi qu'en période de disette, les oiseaux parviennent à vider complètement les nids par des orifices de large diamètre. À la fin de l'hiver, Erigorgus femorator, hyménoptère ichneumonidé, se rencontre sur les nids de chenilles du cinquième stade larvaire. C'est le parasite le plus combatif de la processionnaire du pin. Rapide, agile, la femelle attaque aussi bien à découvert que dans le nid. Avec précision, elle injecte un œuf dans la cavité générale de l'hôte. La larve se développera au détriment de la chrysalide pour donner une nouvelle génération au début de l'année suivante. Il peut arriver cependant que son agilité soit prise en défaut. Alertées, les chenilles se défendent avec vigueur. Dans ce combat singulier, la puissance des mandibules peut devenir terriblement efficace. Au moment des processions de nymphoses, nous retrouvons Phryxé caudata, dont les adultes de deuxième génération pondent sur les chenilles du dernier stade. Les asticots évolueront au détriment de la chrysalide, qui sera consommée en entier, et donneront la première génération d'automne. Les pupes dans le sol pourront être attaquées par un grand nombre d'hyperparasites. Un autre parasite polyphage, dont la biologie n'est encore qu'imparfaitement connue, s'attaque en mai aux chrysalides à l'intérieur du sol. C'est Ichneumon rudis, hyménoptère ichneumonidé. Nous voyons ici un mâle, peu de temps avant l'accouplement. Villa brunea, diptère bombylidé, s'attaque à la processionnaire pendant la phase endogée de son cycle. Son comportement de ponte s'effectue en trois séquences successives. En un premier temps, la femelle stocke du sable très fin dans une poche périvaginale en frottant l'extrémité de son abdomen sur le sol. L'œuf est pondu dans cette poche, puis entouré de sable. Par un mouvement très rapide de son abdomen, la femelle ponte alors dans les zones d'ombre. Les œufs enrobés mesurent 1 mm de long en moyenne, sont pratiquement invisibles et ne peuvent être découverts qu'à très fort grossissement. Au printemps, ils donneront naissance à une larve du type Planidium qui pénétrera dans les chrysalides nouvellement formés. Dans le courant de l'été, il sera possible de retrouver dans les zones d'enfouissement des chrysalides différemment parasités, de gauche à droite, une chrysalide saine, une chrysalide parasitée par Erigorgus femorator, une autre abritant Ichneumon rudis, la dernière parasitée par Villa brunea. Bien souvent, d'autres chrysalides dilatées renferment en très grand nombre le parasite polyphage Psychophagus omnivorus, hyménoptère chalcidien. Nous assistons à l'éclosion de la population intégrale contenue dans une chrysalide. Détruite en général à plus de 95% durant la vie larvaire et nymphale, la population de processionnaires possède encore un taux de multiplication élevé du fait de la grande fécondité des adultes. Heureusement pour l'homme, les papillons, dès l'éclosion, peuvent être attaqués par de nombreux prédateurs. Parmi ces derniers, des hyménoptères formicidés sont souvent très actifs. Nous voyons ici des Camponotus dilacérant un papillon. Les guêpes, également, s'attaquent avec une voracité extrême aux adultes sans défense. Mais la guêpe, à son tour, est dévorée par un azylide, et la chaîne trophique, commencée au niveau de l'aiguille de pin, se poursuit. L'équilibre de la forêt dépend de cette longue suite de compétitions entre espèces. Les actions de l'homme dans la nature devraient toujours être conçues en fonction de l'ensemble du milieu. Et l'un des rôles des écologistes est d'en prévoir le plus exactement possible les conséquences proches ou lointaines.